Europe 1, 16h-18h, l'équipée sauvage. Mathieu Noël.
Bienvenue sur Europe 1, vous écoutez l'équipée sauvage, 2 heures de découverte rieuse pour vous, d'une compétition sans merci pour eux. Car désormais, contrairement à l'époque où notre invité du jour officiait sur cette antenne et où après le coup de feu de la matinale, les journalistes d'Europe 1 occupaient l'après-midi à pioncer dans la salle de repos, ils sont maintenant en compétition chaque après-midi au service de votre culture G. Un seul sera élu chroniqueur du jour, celui ou celle qui vous aura le plus intéressé. Fini la sieste pour les cartes de presse. C'est peu ou prou le discours qu'Arnaud Lagardère, notre grand patron, avait tenu aux journalistes lors de la conférence de rentrée.
Tout se résume à aujourd'hui. Soit nous guérissons en tant qu'équipe, soit on s'effondre. On peut y rester, se faire mettre une dérouillée, ou on peut se battre pour remonter vers la lumière, 1 centimètre à la fois.
1 centimètre à la fois, c'est aussi sa devise, elle est ma complice, ma muse, tu le voyais venir celle-ci. Mais sa fonction essentielle est de me mettre en valeur tout au long de cette émission, et notamment de saluer la qualité de mes interviews en ponctuant chacune de mes questions par...
Elle est géniale cette question.
Même quand je viens de demander à Jamy Gourmaud si le camion de C'est pas sorcier roulait vraiment. Bonjour et merci d'avance, Eva Rock.
Je vous ai dit ça hier.
Oui, vous m'avez dit ça. Mais vous êtes vraiment trop sympa avec moi.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Tout à l'heure, vous nous direz ce qu'on regarde à la télé ou sur les écrans ce soir, Eva Rock. Mais d'abord, accueillons notre invité d'honneur cet après-midi. Eva, si je vous dis charisme, popularité, sympathie et charme, vous me dites ?
C'est Michel Larocque.
Oh presque, c'est François Larocque. Un ancien collègue à nous. C'est la première fois que j'ai un ancien collègue qui est devenu ministre. Bonjour François Baroin.
Bonjour.
Très émouvant pour moi. Vous êtes maire de Troyes, vous publiez chez Albin Michel Une histoire sentimentale, fruit de votre tour de France des villes et villages. Un tour de France qui vous a convaincu d'une chose, on a besoin dans notre pays de plus de décentralisation. Tout part encore beaucoup trop de Paris.
C'est vrai, c'est une histoire depuis la Révolution sur les symboles des personnages, des villages, des villes, des communes. Et je montre sur tous les grands acquis sociaux comme républicains qu'en fait, ce sont des initiatives locales. C'est venu du terrain et ensuite l'État se l'est approprié. Donc c'est plutôt une fédération de volonté qui vient de la province, qui vient de nos pays, qui vient de nos environnements immédiats, géographiques, plutôt qu'une force concentrée dans un État ultra-centralisé.
On va évidemment parler de ce livre, de votre analyse de la situation politique actuelle aussi. Mais d'abord, je vous présente les forces en présence cet après-midi, puisque nous, oui, mais eux ne sont pas là pour rigoler. Voici nos deux premiers journalistes en compétition pour cette fabuleuse couronne. Trésor du célèbre joaillier La Foire Fouille. Ne me regardez pas comme ça, François Baroin, avec cet air de dire, ben dis donc, de mon temps, sous El Kabach, il y avait quand même plus de blé à Europe. On sait. À ma gauche, il est le monsieur littérature d'Europe 1. Raison pour laquelle il a droit pour son entrée à cette musique de film érotique tchécoslovaque des années 70, qui était bizarrement aussi le générique d'une célèbre émission culturelle du service public, comme quoi tout fout le camp dans le journalisme. François Baroin, vous avez bien fait de vous casser. Bref, bonjour Nicolas Caro.
Bonjour.
Cet après-midi, vous avez un cadeau pour notre invité François Baroin. Personnellement, je trouve qu'il n'en a pas besoin, mais allez-y quand même.
Eh bien, je vais vous parler de la répartie, puisqu'est sorti un livre qui s'appelle Anthologie de la répartie.
Et vous avez dit que François Baroin avait besoin de conseils sur la répartie ?
Non, je pense pas, mais il va peut-être pouvoir profiter de l'occasion pour nous en donner.
Ah oui, pourquoi pas ?
Vous
l'avez pioché dans votre livre. À ses côtés, François Baroin, un journaliste, avouons-le, un peu intimidé à l'idée de vous rencontrer. Hors antenne, il m'a dit, Mathieu, pour une fois, rien que pour une fois, avec Baroin, que j'admire beaucoup, contente-toi de dire que je suis le leader du championnat européen et surtout, pas d'extrait sonore où je suis ridicule. Mais enfin, Nissem Bida, vos désirs sont des ordres. François Baroin, je vous présente notre expert innovation, actuel leader du championnat, Nissem Bida. Qui sait aussi imiter Jacques Villeray dans la soupe aux choux ?
C'est la soupe aux choux, tu vois.
Cet après-midi, avec quel sujet allez-vous tenter de séduire François Baroin, dont la voix comptera triple en fin d'émission, je le rappelle.
Bien, on va se poser une question, est-ce si on avait toujours des week-ends de 3 jours et pas seulement le 11 novembre ?
Ça serait bon.
Eh bien, plusieurs entreprises ont essayé et apparemment ça marche, c'est un peu le travailler moins pour gagner plus et je suis ravi d'avoir l'ex-ministre de Nicolas Sarkozy, la ministre de l'économie du Nicolas Sarkozy, pour m'aider à décrypter tout ça.
Oui, ouais, je ne suis pas sûr qu'il vous donne vos points, qu'il vous donne ses points là-dessus. Merci Anissé, voilà pour le programme, l'équipe est sauvage, c'est parti.
L'équipe est sauvage.
C'est donc François Baroin, ancien ministre actuel, maire de Troyes et président de l'Association des maires de France, qui nous accompagne cet après-midi à l'occasion de la sortie de son dernier livre, Une histoire sentimentale, une histoire de terrain, surtout François Baroin.
Une histoire de terrain, par exemple la Marseillaise, on pense que c'est quelque chose qui a été imposé par l'État. En réalité, c'est un homme qui est mandaté pour une commande d'un champ militaire et puis s'est entendu par quelqu'un qui était maire de Strasbourg, qui le fait écouter d'une certaine manière dans un champ qu'il entend lui-même à quelqu'un à Montpellier et puis ensuite c'est repris à Marseille. Et puis on dit, mais tiens, c'est vraiment pas mal, c'est un souffle de liberté, c'est aujourd'hui l'hymne national. Et je montre en fait que l'histoire est dans la géographie, que nous sommes un vieux pays et que ce sont ces bassins de vie qui irriguent de façon vertueuse notre République et pas un État centralisé qui concentre toutes les forces, tous les pouvoirs et au fond presque parfois tous les autoritarismes.
Mais justement François Baron, vous avez été à une époque au cœur de cet État centralisé, ce besoin de décentralisation, cette importance des maires, des communes, vous le ressentiez déjà à l'époque quand vous étiez à Paris dans un ministère ou ça s'est forgé sur le terrain?
Oui, alors j'ai beaucoup évolué en 25 ans puisque ça fait 25 ans que je suis maire, j'ai eu la chance effectivement d'exercer des responsabilités nationales, alors j'ai des bons médecins, ma schizophrénie a été signalée quand même à plusieurs reprises, mais malgré tout elle s'est traitée, et à la fin des fins, je pense que la liberté locale est peut-être le meilleur moyen et de protéger l'État, et évidemment de protéger le coin de la rue.
Une histoire sentimentale est disponible chez Albin Michel, François Baroin est notre invité jusqu'à 18h.
Europe 1.
À suivre, on s'était tous demandé d'où lui était venue soudainement, j'ai envie de dire miraculeusement, sa formidable répartie, la fois où son collègue Mathieu Charrier avait évoqué devant lui sa soi-disant troublante ressemblance avec Jean Dujardin.
Tu sais ce qu'on m'a dit moi plusieurs fois, Jean Dujardin.
Je vois ce qu'ils ont voulu dire, mais toi t'es plutôt Jean du fond de cour.
Une répartie à la Audiard qui ne doit rien au hasard, car Nicolas Carreau a une martingale pour être spirituel en toutes circonstances, l'anthologie de la répartie. A tout de suite.
L'équipe est sauvage sur Europe 1. 16h, 18h, Mathieu Noël.
Vous écoutez Europe 1, l'équipe est sauvage continue avec François Baroin venu nous présenter une histoire sentimentale chez Albin Michel. On continue d'en parler, mais l'heure est à la compétition. Un homme au faux air de Nicolas Bedos, encore plus dépressif, s'avance fébrilement vers le micro. Il va nous parler d'un art délicat, celui de la répartie. En la matière, on le sait, il y a deux écoles. L'école française, basée sur des images poétiques à la Audiard.
À quoi tu penses? Je pense que quand on mettra les cons sur orbite, t'as pas fini de tourner.
Et puis l'école américaine, avec des images aussi. La poésie en moins, à la Schwarzenegger.
T'aimes bien les omelettes? Tiens, je te casse les œufs.
À chacun son école, Nicolas Carreau. Et il y a maintenant un livre pour nous apprendre à avoir de la répartie, quand on en a dépourvu.
Je signale d'abord que c'est Bedos qui a des faux airs de Nicolas Carreau. Mais oui, effectivement, j'ai ce livre de Julien Collias, au Cherche Midi, Anthologie de la répartie, les 1000 meilleures répliques de l'histoire. Alors moi, j'ai beaucoup de réparties personnellement, mais deux jours trop tard, je suis genre à me dire, c'est ça ce que j'aurais dû lui dire. Bon. Et ben pour ceux qui sont comme moi, ce livre est un bon entraînement. Déjà, on apprend que plus la répartie est courte, plus elle est efficace. On apprend aussi que c'est une spécificité française. Ça nous vient de la société de cour de l'Ancien Régime. C'était l'avancée de la civilisation. Ça permet finalement de remplacer la violence physique par cette violence verbal, ça reste quand même une certaine violence, c'est quand même dur. Comme dans le film Ridicule de Patrice Lecomte.
Madame de Blayac, n'est-ce pas le jeune homme dont vous m'avez parlé?
Monsieur Grégoire Ponce, le don de Malavoie, sire.
Cela est bien. Monsieur, on dit que vous êtes un homme de beaucoup d'esprit. Montrez-nous un peu cela. Faites-nous un mot, là, au débeauté.
Sur moi, par exemple.
Sire, le roi n'est pas un sujet. Ah.
Le roi n'est pas un sujet. C'est admirable.
Admirable. Alors attention, parce qu'il y a plusieurs catégories de réparties. Il y a les jeux de mots, il y a les bons mots, il y a aussi les lazis, les plaisanteries. Il y a tout un tas de catégories qui sont répertoriées dans ce livre. Alors évidemment, j'ai plein d'exemples, puisqu'il y en a 1000. Ça a quand même demandé 4 ans de recherche, cette affaire. Hein. Donc même si on n'est jamais tout à fait sûr à 200% de la paternité des réparties, il y a eu du travail pour justement essayer de s'en approcher le plus possible. Mais celle-ci, par exemple, d'Arletty, arrêtée en 1944 pour avoir eu une liaison avec un officier allemand, le juge lui demande d'un ton méprisant « Alors, comment vous sentez-vous » Et elle, pas très résistante.
Il y en a... C'est authentifié, ça ?
Ouais, il y en a un plutôt prophétique. En 2017, l'ancien directeur de cabinet de Patrick Balkany, condamné à 1 an de prison avec sursis pour détournement de fonds publics, un journal a titré « Le bras droit de Patrick Balkany condamné dans une affaire d'emploi fictif » et un commentateur a répliqué « Le reste du corps devrait suivre. » Il avait raison. Francis Blanche, un jour, à une salle de spectacle, oublie de faire figurer son nom sur les affiches. Le directeur donc, accueille Francis Blanche, vraiment très embêté. Il lui dit « Monsieur Blanche, si vous saviez comme je suis confondu. » Réponse « Confondu ? Oh, c'est rien, ça doit être la chaleur. »
C'est pas mal.
Il faut un petit peu de temps.
Comment ça, il faut un petit peu de temps? Comment ça?
Moi, il me faut toujours un peu de temps.
Ah oui, vous, peut-être. Mais moi, j'ai immédiatement.
Chirac, quand il était à la mairie de Paris, interpellé par un quidam qui lui dit « Connard ! Enchanté, moi, c'est Jacques Chirac. » Ce qui est une saillie empruntée à Cyrano de Bergerac, quand le vicomte lui lance « Marot, faquin, buteur de pieds plats ridicule », Cyrano qui ôte son chapeau et qui dit « Et moi, Cyrano, Savinien, Hercule de Bergerac. »
La classe, en somme.
Voilà, il avait de la culture, Chirac.
François Baron en parlait de Jacques Chirac, votre mentor en politique. Les petites phrases, les réparties, ça peut faire la force d'un homme politique, ça peut aussi le perdre quelque part, surtout dans un monde maintenant avec les chaînes infos en continu où on extrait une petite phrase et on ne va retenir que ça finalement, et ça va effacer le discours, le fond finalement. Donc il faut le manier peut-être avec précaution.
C'est qui tout double, hein, cette affaire.
Mais...
c'est vraiment qui tout double. Faut J'en ai une, je ne sais pas si elle est dans le bouquin, mais c'était de Churchill.
Oh, il y en a beaucoup de Churchill.
Ouais, au moment des élections législatives, là, où à l'époque, il y avait des grands meetings où les opposants venaient, il devait y avoir 3-4 000 personnes, puis il y a une femme qui lui dit « Monsieur le Premier ministre, si j'étais votre femme, je mettrais du poison dans votre thé », et lui répond du tac au tac devant 5 000 personnes, hein, un stade, etc. Il dit « Si j'étais votre époux, je le boirais.
» Voilà. Ah, Churchill, c'était vraiment le roi de la République.
Sauf que l'issue de ces élections, c'est qu'il a quand même perdu, alors qu'il était le grand homme du monde libre. Mais malgré tout, voilà, la répartie, c'est de la vivacité, c'est de l'écoute, c'est de l'attention. Au fond, c'est être avec son interlocuteur quand même.
Il est allé à la rencontre des Françaises et des Français. Il en a tiré un livre publié chez Albin Michel, Une histoire sentimentale. François Baroin est notre invité jusqu'à 18h.
Europe 1.
À suivre, lui qui a été ministre de Nicolas Sarkozy, il risque de faire une syncope en direct. François Baroin, si je vous dis « Travaillez moins pour gagner plus ».
C'est un mode de vie.
Nous allons partir au Japon où l'expérience a été menée chez Microsoft. La semaine de 4 jours nous rendrait-elle plus productifs? Les résultats, vous allez voir, sont sidérants. Anis Mbida nous raconte juste après Coldplay, Orphans sur Europe 1.
16h, 18h sur Europe 1, l'équipe est sauvage.
Mathieu Noël.
Vous écoutez l'équipe est sauvage, 2 heures pour rire et découvrir en compagnie d'un invité d'honneur. On parlait tout à l'heure de l'art de la répartie. Il est justement un des hommes politiques français les plus doués en la matière. En préparant cette émission, mon cher François Baroin, je suis retombé sur une interview que vous avez donnée ici même en 2017. À l'époque, vous n'aviez pas encore pris de recul par rapport à la vie politique nationale. Vous étiez au cœur de l'arène et ce jour-là, Fabien Damias vous avait demandé votre avis sur François Bayrou qui venait de se rallier à Emmanuel Macron. La suite vaut les tontons flingueurs.
François Bayrou, c'est un homme à la mer depuis de nombreuses années. Il est sur une embarcation où il n'y a plus de moteur, plus d'essence. Et au fond, c'est une triste destinée. D'une certaine manière, il s'est abîmé dans tous les sens du terme. Il échoue aujourd'hui sur une plage qui n'est pas de sable blanc, mais de galets.
Et bam ! Lino Ventura sort de ce corps !
J'ai dit ça.
Vous avez dit ça. Et c'est marrant parce que...
On s'est revu depuis, d'ailleurs. J'avais oublié, moi aussi.
J'ai envie de m'arrêter là-dessus parce que je trouve ça très intéressant sur vous. Vous m'avez l'air de quelqu'un d'éminemment sympathique et de profondément bon. On a l'impression que lorsque vous étiez dans l'arène au combat pour défendre, à l'époque, sur la scène nationale, vous pouviez être presque un acteur. J'ai l'impression que quand vous dites ça sur Bayrou, j'ai l'impression que vous en rajoutez, vous en faites des caisses parce que le moment l'exige. Et c'est pour ça, finalement, que vous auriez pris du recul sur la vie politique.
Oui, je dois regretter tellement de propos que j'ai tenus dans la scène politique que ça a dû m'amener à prendre un peu de recul. Non, il y a une part d'affrontement, il y a une part de théâtre. Enfin, ça reste juste du verbe. Hein. C'est pas la guerre civile non plus, la politique. Mais on est parfois soi-même surpris des coups violents qu'on porte. Au fond, c'est presque des crimes sans cause. Il faudrait créer des cours d'assises spécifiques, parce que parfois on dit des choses vraiment qui vont évidemment plus loin. En l'occurrence, je ne sais pas, il faudra que je me remette vraiment dans le contexte, mais c'est... Il y a une part de théâtre quand même, il y a une part de théâtre. Il faut du relief en fait, ça ne peut pas être lisse.
Ne serait-ce que pour être repris, comme on dit dans nos métiers, que la phrase soit reprise. Alors vous publiez aujourd'hui, François Baroin, ce livre, Une histoire sentimentale chez Albin Michel. On l'a dit, c'est un plaidoyer pour la décentralisation. Actuellement à l'Élysée, même si les Gilets jaunes sont passés par là et qu'on n'est plus dans la présidence jupitérienne des débuts, vous trouvez toujours qu'Emmanuel Macron reste trop vertical dans sa conception du pouvoir?
Oui, je pense que ça, c'est sa construction, c'est sa formation. On ne peut pas lui en vouloir. D'ailleurs, il a une conception de l'État, c'est un pur produit de l'État et ça a beaucoup de vertus et ça a beaucoup de qualités. Il a une connaissance assez complète. Après, je pense que l'évolution du pays, mais il n'y est pour rien d'une certaine manière. C'est vraiment la tendance lourde depuis 20 ou 30 ans. Et je le montre d'ailleurs dans ce livre. Il y a des mouvements, il y a des mouvements de recentralisation. Ce fut le cas, par exemple, lorsque j'étais au gouvernement avec Nicolas Sarkozy, où la crise financière globale mondiale a amené l'État à rejouer son rôle de protecteur. Là, aujourd'hui, avec son endettement, c'est ce que démontre, et c'est les thèses que nous portons, l'État est tellement endetté qu'il ne peut plus être le protecteur. Et nous, nous considérons que nous pouvons être des meilleurs protecteurs.
Mais vous dites que les maires sont des meilleurs gestionnaires, que l'endettement de l'État, c'est 80%.
Ils ne le sont pas forcément par nature, mais tout simplement parce que là, on a une règle d'or, c'est-à-dire qu'on n'a pas le droit d'emprunter, nous, de l'argent pour financer du fonctionnement. Il faut savoir que l'État, par exemple, emprunte 20% tous les ans pour financer les retraites. 25% pour financer tous les ans les boîtes de médicaments. C'est-à-dire qu'on gage sur la génération de nos enfants, de nos petits-enfants, la réalité de notre confort du quotidien. Donc nous sommes à ce rendez-vous. Alors, est-il capable de l'entendre? Je le pense. Il est intelligent. Est-ce qu'il est capable de se l'approprier? Ça, c'est encore une petite partie du chemin qu'on a à faire ensemble.
Est-ce que vous pensez, François Baroin, que Emmanuel Macron a cassé durablement le spectre politique, la bipolarisation gauche-droite, ou vous pensez que c'est juste une parenthèse dans l'histoire politique française et que la droite va revenir?
Je pense qu'il a eu une intuition évidemment beaucoup plus forte que nous qui étions dans la cuisine depuis longtemps. C'est-à-dire que ces formes de partis de gouvernement par l'usure du pouvoir et par l'exercice des responsabilités, était au fond très usé en profondeur. Mais je pense que la politique, c'est des cycles. Son talent est immense et c'est incontestable. Et il fait le job qui est difficile. Maintenant, ça repose beaucoup sur lui. Et il y aura toujours une droite et une gauche. Et ça, c'est aussi la permanence de la révolution. Il y aura toujours ce spectre-là. Les partis, eux, ils vont évoluer. Le gaullisme a évolué, le radicalisme a évolué, le socialisme a évolué. Donc voilà, on est dans une période de creux, ça remontera.
Une histoire sentimentale. J'aime bien ce côté optimiste de François Baroin. Ouais. Une histoire sentimentale est disponible chez Albin Michel. François Baroin est notre invité.
Si je fais le contraire, je fais pas de bouquin.
Ah bah évidemment,
vous comptez pour ma retraite définitivement et puis on ne raconte aucune histoire du tout.
François Baroin est avec nous jusqu'à 18h.
Europe 1.
À suivre, espérons que Nicolas Sarkozy n'écoute pas Europe 1 car il risquerait de défaillir en entendant le nouveau slogan de ce trotskiste d'Anis Mbida, le Camerounais rouge, je cite, travaillez moins pour gagner plus.
Qu'est-ce que je m'aperçois ?
Non Nicolas, ne faites pas ça, zappez sur RTL ou BFM Business, car je suis au regret de vous annoncer que l'expérience menée au Japon chez Microsoft sur la semaine de 4 jours a fonctionné au-delà de toutes les attentes. A tout de suite.
L'équipe est sauvage sur Europe 1. 16h-18h, Mathieu Noël.
Vous écoutez Europe 1, l'équipe est sauvage continue 2 heures d'un tournoi épique entre les meilleurs journalistes de la rédaction au service de votre culture générale. Et sous la haute autorité cet après-midi d'un ex-journaliste d'Europe 1 devenu ministre et aujourd'hui président de l'Association des maires de France, François Baroin, vous publiez une histoire sentimentale chez Albin Michel, une histoire de France qui part des terroirs au lieu de partir de Paris. C'est un peu votre combat aujourd'hui en tant que président de l'Association des maires de France.
Exactement.
C'est ça. Alors François Baroin, j'ai toujours apprécié, je vais vous le dire, votre sincérité. Même à l'époque où dans les conseils stratégiques de l'UMP, vous étiez plus impitoyable avec vos adversaires politiques et notamment Ségolène Royal que Bernard Blier.
Bon, je récapitule dans le calme. On la débusque, on la passe à l'acide, on la découpe au laser, on la dissout et on balance ce qui reste dans le lac Dauphine.
Mais nonobstant cette sympathie que vous m'inspirez, je me dois à présent de vous introduire à la pensée marxiste, voire amoniste, pire, d'Anis Mbida, selon qui, tenez-vous bien François Baroin, on pourrait travailler moins pour gagner plus. Qu'est-ce que c'est que cette histoire, Anis?
C'est une info qui fait beaucoup de bruit actuellement. Microsoft a testé la semaine de 4 jours. Donc, un petit rappel des faits, ils ont fermé l'entreprise le vendredi, les employés étaient toujours payés, ils ont limité les réunions à 30 minutes, 5 personnes maximum. Tout ça, ils ont testé tout ça pendant un mois et ils viennent de rendre les résultats et c'est assez sidérant parce qu'il y a eu 40% de productivité en plus, donc les ventes par employé ont augmenté de 40%, la consommation énergétique a baissé énormément, 23%, et surtout ils ont consommé énormément moins de papier, moins 60% de consommation de papier, donc évidemment tout le monde est heureux, 90% de satisfaction, tout le monde en redemande.
Oui, attendez, j'aimerais pas qu'on perde François Baroin qui quitte le studio, il y a quand même
tout le monde s'en bat,
il y a peut-être un embêtement.
On devrait instaurer la semaine de 4 jours partout. Sauf que, évidemment, il y a un gros bémol, c'est que ça se passe au Japon.
Ils ont fait 20 heures sur 24.
Voilà, on doit rappeler que le Japon est un pays qui manque énormément de main-d'œuvre. Donc, ils incitent les entreprises, exigent quasiment de leurs employés de faire des heures supplémentaires, 80 heures supplémentaires par mois. Sinon, grosso modo, on est mal vu comme employé. Donc, il y a énormément. Des gens se tuent au travail. C'est une vraie réalité là-bas. Donc, il y a des mesures du gouvernement actuellement pour essayer de régler tout ça, de limiter des heures supplémentaires et surtout d'apporter un peu plus de flexibilité au travail, de faire en sorte que les gens travaillent des heures décalées pour éviter les pics de pollution, les pics dans les transports. Donc cette initiative de Microsoft s'inscrit dans ce cadre-là, parce que le Japon voudrait favoriser la natalité en disant si les employés passent plus de temps chez eux, ils sont beaucoup plus flexibles, peut-être qu'ils feront plus d'enfants parce que le Japon a un énorme problème de natalité, etc. Donc, et surtout, on oublie que le Japon est beaucoup moins, mais alors beaucoup moins productif que la France.
C'est fou parce que comme bah ça, oui. le cliché, on se dirait qu'en France, on est moins productif qu'au Japon.
Au dernier classement OCDE, la France est 7e mondiale, alors que le Japon est 20e mondiale. Donc évidemment, quand on dit que le Japon, enfin une entreprise au Japon a augmenté sa productivité de 40%, on reste encore très 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 loin de ce que l'on fait en France.
François Baroin a retrouvé quelques couleurs avec ses bémols, mais ce n'est pas la première expérience du genre à Nice. Il y a eu plusieurs expériences de ce type dans le monde.
Oui, notamment une très intéressante qui a eu en Nouvelle-Zélande avec une entreprise qui gère les successions. Alors Nouvelle-Zélande, c'est le 21e, donc on est très très loin de la France. Eux, ils ont testé ce système pendant 2 mois et ils l'ont pérennisé depuis 2018. Ça fait plus d'un an qu'ils travaillent comme ça et ils sont ravis, ils sont extrêmement contents. Mais plus globalement, on s'est rendu compte que dans le monde entier, il y a énormément d'études qui ont été faites et qui montrent qu'il vaut mieux rémunérer les gens sur leur productivité plutôt que sur la durée du du temps de travail. C'est pas parce qu'on est présent que l'on travaille. Donc en ce moment, c'est un vrai débat qui a lieu au Royaume-Uni, parce qu'on a eu les 35 heures nous en France, mais eux, ils militent en ce moment pour la semaine de 4 jours, 32 heures. C'est le parti travailliste britannique qui le pousse avec leur mode de vie, c'est travailler pour vivre et non vivre pour travailler.
C'est beau.
Et il y a énormément de débats en ce moment, et ça rappelle un peu notre débat sur les 35 heures.
Non, ça fait rire parce que ça rappelle quand même de Funès dans La Folie des Grandeurs. Il faut vivre pour manger, non pas manger pour vivre.
Moi, je pensais que ça rappelait plutôt notre débat sur les 35
non,
heures.
Voilà, excusez-moi, je ramène à un niveau qui est à peu près le mien. Et donc...
Les 35 heures en France, c'est quand même depuis 2002. Hein, les débats et les
je suis pas travailliste, hein, c'est pour ça que je n'ai pas pu m'empêcher de cette saillie inutile.
Alors, souvent, à l'issue d'un sujet économique, je me tourne vers l'invité, je lui demande ce qu'il en a pensé. Je suis souvent déçu de la réponse, sachant qu'une fois sur deux, l'invité a arrêté l'économie en terminale. Là, c'est mon jour, un ancien ministre de l'économie. Alors là, on est bien, François Barrois. La semaine de 4 jours qui booste la productivité, pourquoi ça marcherait au Japon et pas chez nous ?
Le Japon est en atonie économique depuis plus de 20 ans. Ils n'arrivent pas. Ils ont des taux bas, ils sont en déflation, ils ont des salaires qui ont baissé, ils ont un problème de natalité, ils ont un problème de concentration économique. Vous avez sur les trois grandes entreprises de mémoire, hein, Mitsubishi, Toyota et Nissan, plus de 25% je crois de la main-d'œuvre qui travaille dans l'industrie. Donc effectivement, le choix, c'est d'essayer de faire de la relance par de la dépense publique, de faire de la relance de la compétitivité et puis de refaire de la relance. Alors là, l'originalité dans ce que vous avez dit, c'est d'avoir du temps libre pour pouvoir faire des enfants.
voilà. Ça
m'interpelle sur le plan économique et on va essayer de mettre 2-3 prix Nobel français là-dessus. J'aimerais comprendre le lien de la création de richesse et de valeur. Je vois la valeur, mais c'est la richesse.
C'est ça d'avoir un ancien ministre de l'économie avec en studio. Hein. Ça, c'est des réponses précises. Anissa Mida, vous vouliez ajouter quelque chose ?
Oui, il y a aussi une autre couche qui s'est ajoutée, c'est celle de l'automatisation et de l'intelligence artificielle où pour pas mal de tâches, le travail a énormément évolué et pas mal de tâches peuvent être aujourd'hui automatisées. C'est un des grands axes du Japon également. Pour justement pallier aux problèmes de manœuvre.
Ils essayent depuis 25 ans des relances économiques, ils ont tout essayé, ça n'a pas marché.
Là, ils vont essayer de faire des enfants, c'est déjà ça. Ils publient Une histoire sentimentale chez Albin Michel. François Barrois passe l'après-midi sur Europe 1.
Europe 1.
À suivre, dans sa carrière, elle a déjà vécu bien des moments gênants. A commencé jeudi dernier par cette question de 2 minutes et 47 secondes où pas un mot n'était dans l'ordre.
Mais c'est cette idée-là qui a été qui a préconisé le bouquin. Non, c'était pas préconisé. Vous voyez, c'est cette idée-là.
Oui.
Attends,
oui,
c'est
oui,
cette idée-là
attends,
qui
on
a
pas le temps. Et au beau milieu de laquelle elle fut contrainte d'abdiquer.
Fatiguée. Voilà.
Pourtant, la gênance risque d'aller encore plus loin cet après-midi puisque oui, Eva, c'est le rituel. Un quiz va vous opposer à l'invité, sauf que l'invité aujourd'hui est titulaire d'un DEA géopolitique et a été ministre de l'Intérieur et de l'économie, c'est foutu d'avance, mais comme disait Freddy, courage Eva.
16h-18h sur Europe 1, l'équipe est sauvage.
Mathieu Noël.
Vous écoutez l'équipe est sauvage, 2 heures pour comprendre le monde sans jamais oublier d'en rire, en compagnie aujourd'hui d'un invité exceptionnel. Il a été ministre, député, sénateur, il dirige actuellement l'Association des maires de France, mais comme c'est aussi un ancien journaliste d'Europe 1, il porte certainement un regard bienveillant sur notre nouvelle grille.
C'est une embarcation où il n'y a plus de moteur, plus d'essence, et au fond c'est une triste destinée, c'est une plage.
François Barrois est avec nous, vous publiez Une histoire sentimentale chez Albin Michel. Dans cet ouvrage, vous revenez sur tous les symboles de la République, notamment Marianne. Alors Marianne, j'ai appris des choses, j'ai appris notamment qu'au départ, ce sont les ennemis de la République qui l'utilisaient.
C'est vrai. Marianne était utilisée un peu par les bourgeois monarchistes pour qualifier, pas des filles faciles, mais des filles un peu vulgaires, enfin voilà, sans attachement particulier. Et Marie et Anne étaient en fait les deux prénoms les plus usités, et Marianne était le troisième le plus usité, et ça n'est qu'après que les couches sociales plus populaires se sont appropriées ce qui était à l'origine la figure de la liberté. Marianne n'est pas née avec la Révolution.
Non.
C'était d'abord et avant tout la figure de la liberté avec ce bonnet phrygien. Donc c'est cette domination de la liberté. Et puis ensuite, le bonnet demeure, évolue un peu. Ensuite, c'est un joli visage. Ce qu'il faut retenir là-dessus, c'est qu'effectivement, ça a été utilisé dans un premier temps par les ennemis de la République. Et ce qu'il faut retenir, c'est qu'il n'y a pas de visage de Marianne. Je dis d'ailleurs
oui,
dans le livre
c'est
qu'il y a...
C'est étonnant,
oui. Et que personne ne peut s'approprier le visage de Marianne. Et il y a une Marianne noire.
C'est ce qu'on apprend dans votre livre, ouais,
exactement.
Ville,
hein, ouais. Après, il y a eu un changement d'équipe municipale, elle a été retirée, ça a fait un scandale. Mais voilà, le visage de Marianne, c'est le visage de la France, de la République, de la liberté, et il n'y a pas de prototype.
Alors, François Barrois, vous ne serez peut-être pas le seul journaliste d'Europe 1 à connaître un destin politique national. Qui sait, peut-être qu'Eva Rock, après avoir mis la main sur la mairie de Nice, s'élancera elle aussi vers les plus hautes fonctions. C'est ce qu'on souhaite au pays, Eva. Mais chaque chose en son temps, posez cette flûte et concentrez-vous, car voici le quiz qui va vous opposer à notre invité François Barrois. C'est une épreuve particulière aujourd'hui, c'est c'est le tiercé quarté gagnant politique. Le principe est simple, je vous fais écouter quatre personnalités politiques, à vous de les identifier. Attention, non seulement l'extrait ne s'arrête pas, mais en plus, vous me donnez vos réponses seulement à la fin. Eva Rock, vous allez ouvrir le bal. Écoutez attentivement, vous répondez, je vous rappelle, une fois l'extrait diffusé. Une personnalité politique trouvée, un point marqué.
Ça, c'était un ballon tout mou. Mais parfois, les mous peuvent atteindre la perfection.
Et c'est pourquoi je vous regarde ce soir au fond des yeux. Et c'est pourquoi aussi vous me regardez.
Je voudrais leur dire qu'on a reçu le croupier derrière, mais que c'est pas parce que vous voulez renverser la table que vous descendez de la voiture dont vous abstenez de choisir le chauffeur.
C'est la coiffure qui veut garantir que quand je parle du projet de loi sur lequel nous sommes en train de travailler, on va parler du projet de loi sur lequel nous sommes en train de travailler et pas de est-ce que j'avais l'arrêt à gauche, à droite, au milieu, etc.
Et bah, vous êtes vraiment... Alors, vous,
non, c'est
là,
facile.
Franchement, pour vous, vous avez eu un... Même moi, je les connais tous, là. Ouais. Allez-y, donnez-moi.
François Hollande.
Oui.
Giscard.
Giscard, ça, ce n'est pas un...
Vous parlez d'un Valéry Giscard d'Estaing, excusez-moi.
S'il vous plaît, un peu de respect pour la fonction présidentielle.
Oui. Nicolas Sarkozy.
Oui, Nicolas
Sarkozy.
Et Marlène Schiappa. C'est un sans faute, 4 points
alors là,
pour Eva Rock. Alors là, c'est la première fois qu'elle marque 4 points.
Mais vous avez fait exprès de le faire très très facile, je pense.
Oui, c'est pas faux. François Baroin,
ouais, voilà,
c'est
merci.
J'aurais pas trouvé la quatrième.
C'est vrai, Marlène Schiappa. Même principe, vous écoutez le quartet gagnant politique et à la fin, vous nous donnez vos réponses. Concentration totale, c'est parti, François Baroin.
Quel est le vrai Emmanuel Macron? Emmanuel Macron, c'est l'homme sans projet parce que c'est l'homme sans conviction.
Si vous posez des questions, si vous parlez pour Mitran et si vous parlez pour moi, je ne vais pas aller au cinéma.
Quand un président de la République est à 77% d'opinion négative, bah forcément cet humoriste devient populaire.
C'est en ce sens que je veux être le premier maire véritablement écologiste de Paris.
Vous avez trouvé François Baroin?
Il y a un piège, non?
Ouais, il y a plein de... j'ai l'impression qu'il y en a deux même. Je dirais Le Maire.
Bruno Le Maire, bonne réponse.
Marchais.
Georges Marchais, excellente réponse.
Après, Canteloup ou Gérard.
Non.
Mauvaise réponse.
Ah, mais...
Didier Gustin.
Didier Gustin, non. Non, non.
Didier Gustin, c'était Petit Poucet ne va pas dans la forêt.
La culture en Didier Gustin ne va pas jusque là.
Eh ben allez-y,
c'est vrai.
Parce qu'il imite Georges Marchais justement, et c'est assez remarquable.
Ah oui, alors, non, si... alors, là, ah donc oui, c'est si Bruno Le Maire, le vrai Georges Marchais. Ensuite Nicolas Sarkozy imité par Stéphane Guillon.
Stéphane Guillon.
Ah oui, j'aurais dû dire Nicolas Sarkozy imité par.
Nous allons accorder un demi-point pour ça.
Ouais.
Et le dernier, vous l'avez reconnu.
C'est en ce sens que je veux être le premier maire véritablement écologiste de Paris.
C'est
Villani, Cédric Villani, imité par Cédric Villani lui-même. Il s'imite fort bien, ma foi. Et c'est donc la première fois de l'histoire quasiment qu'Eva Rock remporte le quiz.
Bande de tricheurs.
Un petit peu aidée par des questions plus faciles. Bravo Eva tout de même.
J'ai soudoyé la personne qui fait le quiz, je peux le dire aujourd'hui.
Ne nous racontez pas comment vous l'avez soudoyé. Il publie Une histoire sentimentale où les vraies racines locales de notre République, François Baroin est l'invité d'Europe 1 cet après-midi.
Europe 1.
À suivre, anatomie d'une fake news sur Instagram. C'était une photo censée promouvoir la beauté resplendissante de la nature franc-comtoise, sauf que, vérification faite, on n'était pas tout à fait en Franche-Comté, mais en Slovaquie, à Zabokleki. Peut-on encore être sûr d'une information à 100% dans ce monde? Quand on voit la complexité du métier de journaliste aujourd'hui, j'ai presque envie, comme François Baroin, de me lancer dans une activité plus pépère, comme la politique. On en parle juste après Francis Cabrel, encore et encore sur Europe 1.
L'équipe est sauvage sur Europe 1. 16h-18h, Mathieu Noël.
Vous écoutez Europe 1, l'équipe est sauvage continue avec François Baroin qui publie Une histoire sentimentale chez Albin Michel, un livre qui aurait pu s'appeler également La revanche des territoires, François Baroin, c'est ça?
L'histoire des territoires ou l'histoire de la République.
Ah, moi, j'essaie de dramatiser ça. Ouais, ouais. Moi, j'aurais vendu ça à l'éditeur, moi. Ça la vient d'où le fait qu'on ait un pays si centralisé? Ça remonte à Napoléon?
Alors, Napoléon a été un amplificateur. Enfin, avant Napoléon, il y a quand même eu la confusion du pouvoir spirituel et temporel.
Oui,
donc,
c'était déjà pas mal, oui.
Je prends un exemple dans le livre précédent, dont j'assure la promotion, je vous remercie de me prêter le micro, qui était une histoire de France par les villes et les villages. Il y a l'histoire de la bête du Gévaudan, qui fait partie de la mythologie et de l'inconscient. Et à la fin, c'est quand même le roi qui envoie son meilleur lieutenant de louveterie pour essayer de débusquer la bête et d'en terminer avec ses morts à répétition. Donc malgré tout, l'idée centralisatrice est une idée très très française. On n'a jamais été sur un modèle fédéral et on a plutôt toujours été sur cette contradiction un peu schizophrénique entre un État qui peut tout et qui demande tout aux autres. Voilà. Et donc, voilà, c'est ce type de rendez-vous. Napoléon a été évidemment celui qui a structuré de manière très très organisée les départements, les représentants de l'État, et on envoie des missis dominicis pour dire « il faut faire ci, il faut faire ça ».
Alors justement, François Barin, vous déclariez avant-hier dans Est Éclair « Je suis un provincial, vous allez adorer notre décrochage régional au plus proche de vous ». Voici Régional Géographique. Chaque jour, on part en région retrouver un correspondant d'Europe 1. Aujourd'hui, direction la Franche-Comté. Bonjour Arthur Mbaché.
Presque la Franche-Comté. Bonjour Mathieu, salut tout le monde.
Ah,
salut.
Mince. Correspondant d'Europe 1 dans l'Est, chronique cet après-midi en forme de tuto. Pour ne pas se faire avoir par les fake news, vous nous parlez, Arthur, d'une série de 4 photos, des images magnifiques, un bel arbre, une prairie vallonnée, une forêt, tout ça pris à chaque saison de l'année.
Et avec ce commentaire qui circule sur Facebook, les 4 saisons, un enchantement franc-comtois, c'est vrai. C'est un joli paysage, magnifique, écrit un internaute qui y commente. Top du top, superbement beau, dit un autre. C'est vrai que c'est beau et... comme disait Chirac, c'est beau, mais c'est loin, beaucoup plus loin que la Franche-Comté. Parce que ce paysage n'est pas un enchantement franc-comtois, mais un enchantement slovaque. On n'est ni dans le Jura, mais à Zabokreky, au nord-est de Bratislava. C'est le site web de France 3 qui a mis les choses au clair il y a quelques jours.
Bon, Arthur, franchement, entre nous, il me semble qu'il y a eu des fake news plus graves, non?
Vous avez raison, ça reste une photo de paysage, c'est pas dramatique, mais ça nous offre la possibilité de rappeler comment ne pas se faire avoir, parce que les mécanismes sont les mêmes. Là, c'est un arbre et une prairie, mais tous les jours, vous avez sur le web, au milieu de vraies infos, des images de, par exemple, soi-disant manifs qui, en fait, sont des archives d'un autre mouvement social dans un autre pays à un autre moment. Des images, il y a eu ça, de la mort d'un gilet jaune qui, en fait, n'existe pas, etc., etc., etc.
Mais comment savoir, alors comment ne pas tomber dans le panneau, finalement?
Alors, nos confrères et amis, d'ailleurs, je salue François, salut François du service factuel de l'AFP, c'est un
salut
ami,
François.
Ont concocté une sorte de mode d'emploi. En résumé, ce mode d'emploi de l'AFP factuel, c'est d'abord 1. Dans le doute, abstiens-toi de partager. Même si c'est un petit doute, c'est plus prudent. Ça évite que des fausses nouvelles continuent leur balade néfaste sur les réseaux. 2. Il faut lire les commentaires. Au milieu de tous les gens qui se font avoir, il y a parfois un internaute un peu clairvoyant qui s'interroge, voire qui propose un lien vers, par exemple, la photo originelle avec la date et le lieu. La Slovaquie, pourquoi pas. 3. Si le contenu douteux est un texte, alors dans ce cas-là, c'est pas bête de tout simplement le copier-coller sur un moteur de recherche. C'est possible qu'un site qu'on appelle de fact-checking ait déjà vérifié l'info, comme ça, vous le saurez. Et enfin, si l'info est une image, il y a ce qu'on appelle la recherche inversée. C'est un peu plus compliqué.
Qu'est-ce que c'est que ça ?
Normalement, en quelques minutes, vous devriez comprendre. En gros, vous recherchez sur le web les autres sites où il y a déjà cette image. Alors, vous avez Google Images qui propose ce service. Il y a aussi un autre site qui s'appelle TinEye, T-I-N-E-Y-E. Et c'est comme ça qu'une famille de singes censée être en train de fuir les incendies en Amazonie s'est révélée être une famille de singes, certes, mais dans un zoo en Thaïlande. Voilà. J'aurais terminé cette histoire par une déclaration. La Slovaquie, c'est sans doute très joli, mais paysage franc-comtois, je vous aime.
Paysage franc-comtois, je vous aime, ça sonne comme une chanson de Michel Sardou. Merveilleux, Arthur Mbaché.
Ma nouvelle carrière est lancée.
Peut-être, probablement, une reconversion. Merci à vous, Arthur Mbaché, correspondant d'Europe 1 dans l'Est.
Europe 1.
L'équipée sauvage continue, 2 heures pour départager les meilleurs journalistes d'Europe 1, ou en tout cas ceux qu'on m'a désignés comme tels, mais qui ont certainement été choisis à la courte paille. 2 heures également pour profiter des lumières d'un invité toujours savant, comme François Baroin aujourd'hui, mais pas toujours aussi bien réveillé que François Baroin aujourd'hui, comme Jamy Gourmaud hier, qui venait nous présenter un livre de vulgarisation scientifique proposant des réponses claires à des questions simples. Enfin, normalement. Est-ce que les poissons ont soif ?
Eh bien oui, les poissons boivent. Hein, ce sont comme nous. C'est-à-dire que avec au niveau de la surface de l'animal, ce qui n'est pas le cas chez... parce que là, vous me prenez de court, c'est pas facile.
On embrasse Jamy, et vous inquiétez pas, c'est beaucoup plus clair dans le bouquin. Hein, en fait, c'est super. À suivre, les amis, la compétition entre dans sa dernière ligne droite. 2 nouveaux concurrents arrivent, dont Sophie Larmoyer, qui va lever le voile sur des archives historiques inédites made in Europe 1. A tout de suite.
L'équipe est sauvage sur Europe 1. 16h-18h, Mathieu Noël.
Vous écoutez Europe 1, l'équipe est sauvage continue, émission hybride à la frontière du journalisme le plus rigoureux et du divertissement le plus débonnaire, un peu comme si le journal de Roger Gicquel avait rencontré le plus grand cabaret du monde.
Bonsoir.
Et là, notre invité François Barouin, ancien de la maison, se dit, eh ben, ça a bien changé, enfin. Certes, mais vous restez avec nous. Deux nouveaux compétiteurs arrivent avec un sujet notamment qui devrait vous plaire. Les maires vont-ils sauver la nuit? En prenant la décision d'éteindre les éclairages publics plus tôt dans les villages, des maires sont en effet en train de sauver la faune et la flore de leur commune. Alain Siroux, le directeur de la revue Ciel et Espace, arrive pour nous en parler. Et comme je l'aime beaucoup, je croise les doigts pour qu'il ne s'installe pas devant ce qu'on appelle désormais le micro maudit. Le micro devant lequel s'est assis Nicolas Bedos lundi, victime ce jour-là d'une terrible gastro. Nicolas a probablement laissé un paquet de germes sur la bonnette, à savoir l'enveloppe de mousse sur le micro. Enveloppe heureusement interchangeable. Ce qui, vous vous en doutez, a évidemment inspiré l'infâme Eva Rock. Écoutez ce off d'hier et vous comprendrez qui de nous deux est la boule de vis.
Non mais c'est... j'ai fait pire que ça, tu m'as pas vu avant.
Quoi? T'as fait quoi?
La bonnette de Bedos. J'ai changé, je l'ai mis à Geffroite.
C'est immonde. C'est immonde, je n'ai pas d'autres mots. D'ailleurs, une seule chose peut vous sauver. Voilà, le carillon. Heureusement pour vous Eva, il est 17h sur Europe 1.
Europe 1, 16h-18h, l'équipée sauvage. Mathieu Noël.
Vous écoutez Europe 1, l'équipée sauvage continue chaque après-midi, 2 heures d'un mano à mano, ou plutôt, vu qu'ils sont 4, soyons précis, d'un mani à mani, entre les meilleurs journalistes de la station. Un combat sanglant duquel seule votre culture G ressortira grandie. Et si vous en voulez encore, si votre cerveau insatiable réclame encore une autre dose de savoir, je vous renvoie au livre de notre invité François Barouin, Une histoire sentimentale chez Albin Michel, où l'on découvre un important symbole que vous évoquez François Barouin, c'est, on le voit partout dans nos villes et villages, le monument aux morts. Avec la guerre de 1870 que l'usage d'élever des monuments aux morts se répand dans notre pays, sauf à Paris. Le premier monument aux morts a été érigé en 2018, il y a quasiment un an, jour pour jour.
Mais c'est vrai, mais alors je trouve que ça, c'est l'exemple,
comment ça s'explique ?
C'est l'exemple le plus spectaculaire justement de la réalité de la construction de notre pays, plutôt sur les territoires. Mmh. Et l'histoire des monuments aux morts, en fait, à partir de Napoléon, un peu avant, on célébrait le vainqueur, on célébrait la victoire. On célébrait absolument pas ceux qui mouraient au front. On n'en avait rien à faire. D'une certaine manière, c'était de la chair à canon. Peu importe, ce qui comptait, c'était de gagner. Et en 1870, la nature de la guerre a amené, notamment dans l'Est, en Alsace, en Moselle, en Lorraine, des gens à quand même se recueillir devant les familles éplorées et de laisser une trace. Et donc, on demande à un sculpteur une œuvre, et cette œuvre commence à se mettre en place, pas très loin d'une église en général, ou pas très loin de la mairie ou de la maison commune. Et puis ensuite, on met les noms. Et effectivement, Paris aura été le dernier, c'est ça qui est inouï, et de manière extraordinairement tardive à avoir son monument aux morts.
Une histoire sentimentale chez Albin Michel. On continue évidemment de parler de ce livre, François Barouin. Le temps de vous présenter deux nouveaux concurrents, et pas des moindres. On vous a mis de sacrées pointures aujourd'hui. À ma gauche, je ne peux pas dire qu'il est du même bord politique que vous, puisqu'il s'agit d'un journaliste dont la carte de presse exige, vous le savez, une parfaite neutralité. Mais bon, disons que pour 2022, il a deux rêves. Le premier homme sur Mars.
Et Giscard à l'Elysée.
Oui, alors, je ne sais pas lequel des deux. Voilà, lequel des deux est le plus probable. Bonjour Alain Siroux.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Vous êtes l'expert scientifique d'Europe 1, directeur de la revue Ciel et Espace, et cet après-midi, c'est avec un sujet gagnant que vous vous présentez devant le président de l'Association des maires de France. D'aucuns pourraient même parler de racolage. Je vous laisse nous expliquer votre truc.
Non, je vais parler des villages, parce que les villages, pour moi, sont en train de s'emparer d'un problème global, mondial, qui est la qualité du ciel. Comment conserver la nuit? Et ça, pour moi, c'est une solution locale à un problème universel.
Mais à quoi ça sert, la qualité du ciel?
Vous êtes déjà sorti avec votre enfant regarder les étoiles?
Oui. Effectivement, on dort aussi. Effectivement. À ses côtés, François Barouin, une figure de la rédaction d'Europe 1, notre expert international, Sophie Larmoyer, également en charge de la formation des stagiaires. Et elle en a vu défiler des tocards.
Attendez, c'est lesquels les Chinois qui étaient alliés aux nazis?
Les Japonais.
Les Japonais, c'est ça. Autant pour moi. J'avais un embryon de piste, mais non. Si nous avons affaire des Chinois de Chine, ça ne marche plus.
Ah, ma pauvre Sophie Larmoyer, pas facile de les former, tous ces petits cons. À l'occasion des 30 ans de la chute du mur de Berlin, Europe 1 nous fait découvrir, Sophie, chaque soir, des archives assez incroyables.
Oui, bonjour Mathieu. Effectivement, on s'est plongé dans les archives d'Europe 1 depuis l'origine de la radio, donc depuis 1955 et jusqu'à 1989, pour essayer de raconter la guerre froide à travers les archives d'Europe 1. C'est forcément une histoire un peu subjective, mais qui est passionnante, avec des petites pépites.
Des pépites à découvrir. Les archives secrètes d'Europe 1 pour revivre la guerre froide comme si vous y étiez, ou les maires qui décident d'éteindre les lampadaires de leur village. Sur le papier, il y a un gagnant assez évident, mais bon, on a déjà vu des surprises dans cette émission. Et pour l'heure, je me tourne vers notre invité d'honneur, François Barouin, président de l'Association des maires de France. Il a été un des plus jeunes députés, un des plus jeunes ministres. Résultat, il est toujours aussi jeune. En plus, il est beau et il a la voix de Barry White. Bref, François Barouin, vous agace-t-il autant que moi? On a promené notre micro dans les villes et villages de France et... Ah oui, non, pardon, on me signale qu'on n'avait pas le budget pour aller dans les villes et villages de France et pour franchir le périph. Donc c'est juste un micro-trottoir dans le 15e arrondissement, en fait.
François Baroin, c'est un homme politique, maire de Troyes, dont le papa était un grand politicien.
C'est un ancien jeune homme de la politique.
Ah oui, on connaît François Baroin. Eh ben, c'est le président des LR. Ah non, c'est pas lui, merde, pardon. Non, c'est l'autre, là, le gros brun. Je m'enregistrerai pas, là.
Ah, il est beau gosse, hein.
Il a une petite mèche, cheveux dans le vent.
Il est beau gosse, il a une jolie voix, surtout.
Il a une très belle femme, aussi.
C'est le chiracien, par définition, qui devait être le successeur de notre chichi national, mais malheureusement, sa carrière n'a pas été celle qui aurait dû être.
Il est de droite, avant Marine Le Pen, moins extrême. Ouais, les Républicains, voilà, c'est ça. Avant Le Pen, et après c'est Le Pen, et avant il y a Macron.
Il est pas mal, hein.
Alors, il est pas mal, ça l'analyse est juste. Sur le positionnement politique, juste avant Le Pen, vous auriez certainement envie d'affiner, probablement.
Oui, c'est une conception un peu rapide.
Rapide. Quant à cette femme qui dit que vous auriez dû être le successeur de notre chichi, ce sont ses mots, ben ça c'est pas faux, en tout cas pour ceux qui partagent votre vision politique. Pourquoi avoir abandonné la politique à l'échelle nationale, en tout cas en 2017? Parce qu'on va en reparler, peut-être que maintenant la donne a changé. Mais qu'est-ce qui s'est passé?
Parce que d'abord le métier a beaucoup changé, puis vous l'avez dit, moi j'ai commencé quand même très très jeune. J'ai quitté Europe et trois mois plus tard j'étais député. Ensuite il y a eu cette aventure avec Chirac, à qui je dois d'être entré en politique. Il n'y avait plus personne autour de lui, donc il me dit tu seras porte-parole. Il y avait un côté, c'est celui qui dit qui est. Donc, voilà, et puis, trois mois avant, il est battu. Trois mois plus tard, il est président. Je me retrouve au gouvernement. Je deviens maire de Troyes. Parce qu'il y avait un compagnon de la Libération qui était en fin de carrière, auquel il fallait succéder. Puis après, voilà, c'est une succession d'histoires. Mais j'avais envie surtout de voir d'autres gens. Enfin, moi, je n'ai pas eu toujours que la politique, et je n'ai pas que la politique dans le sang. J'adore ça, j'adore mon pays, j'adore le débat, j'adore échanger, j'adore faire. Mais j'adore aussi d'autres sujets. J'ai adoré ce métier. J'ai quitté le micro d'Europe 1 en me retournant. C'est un métier de liberté. Je suis avocat, c'est un métier de liberté. Voilà, j'ai besoin de souffle de liberté. Et je ne suis pas sûr que je dirais à la fin, une fois que j'aurai terminé de compter mes points retraite, que j'aurais raté ma vie si je ne suis pas président de la République. Vous voyez, je l'aurais très bien, quoi.
Oui, mais quand même, vous comptez vos points si vous êtes président aussi.
Ça, c'est autre chose. Il faut voir l'évolution du pays. Mais il y en a beaucoup qui parlent. Pour moi, c'est une décision tellement personnelle. Et qui n'engage que celui qui la prend.
Une décision qui fait son chemin dans votre esprit, quand même, on le comprend. Vous publiez donc Une histoire sentimentale. Vous dédiez ce livre à Jacques Chirac, dont on parlait, décédé le 26 septembre dernier. On le sait, il y a entre vous une filiation. On dit que vous étiez son filleul politique, il vous a soutenu, il vous a éclairé dans votre engagement politique. Moi, j'ai une question à vous poser qui est peut-être un peu bête, mais est-ce que si, par exemple, c'était François Mitterrand qui vous avait pris sous son aile, vous auriez pu être un homme de gauche? Quelle est la part de psychologie, d'affectif dans votre choix politique? C'est ça
question,
que je veux dire.
C'est pas du tout une question bête, c'est une question pertinente, parce que on vient pas de nulle part, il y a un environnement familial. Moi, je suis issu d'une famille qui est plutôt de gauche. Mon grand-père était militant socialiste, j'ai toutes les cartes de la SFIO et du PS, donc le père de mon père, Baroin, et dont le nom est originaire de la Nièvre, dans le Morvan, qui a pour particularité d'avoir eu comme conseiller général du village natal de ma famille Baroin, François Mitterrand. Donc, je suis cousin, c'est sur la place publique, avec Daniel Vaillant, l'ancien ministre de l'Intérieur, puisque pareil, c'est la même souche. Alors, on n'arrive pas à savoir, enfin si, on arrive à savoir, mais on se chamaille un peu pour savoir si c'est un homme qui a partagé deux femmes ou si c'est une femme qui a partagé deux... voilà. Donc, mais, et dans quel ordre, voilà. Mais ça, en tout cas, il y a une lignée. Et donc, cet environnement-là, mon père était grand maître du Grand Orient, il travaillait dans le secteur de l'économie sociale, mais c'était d'abord et avant tout un gaulliste. C'est-à-dire qu'il a été fasciné par le général de Gaulle, par cet esprit de liberté, par cet esprit de résistance. Donc c'est cette génération-là. Il était à Sciences Po avec mon père. Et mes relations avec Chirac sont d'abord personnelles avant d'être politiques. Mais pour répondre en conclusion à votre question, je ne suis pas sûr, compte tenu de l'exercice du pouvoir par la gauche sous François Mitterrand, pour lequel j'ai beaucoup de respect, je le cite d'ailleurs dans le livre, et l'usage de ces belles et grandes valeurs qui en ont été faites, que je me serais engagé sous cette forme-là. Et enfin, Jacques Chirac avait ce tel humanisme, et cette telle vision, et cette telle ouverture d'esprit, et cette telle filiation gaulliste que j'ai été très à l'aise très vite avec lui.
François Baroin, est-ce que Jacques Chirac, dont on parlait, vous l'avez vu jusqu'au bout, jusqu'à la fin? Vous aviez des liens avec lui?
Oui, bien sûr. Sa maladie était sur la place publique, d'une certaine manière. Et depuis de nombreuses années, ça n'était plus la même lumière dans le regard. Mais c'était la même intensité de le revoir.
Sans nous dire si vous vous présenterez en 2022 à la présidentielle, est-ce que vous pouvez nous dire si vous en... c'est un sujet, le fait de vous présenter un jour à une présidentielle, dont vous avez discuté avec Jacques Chirac, qui était votre mentor en politique?
Non, je ne vous répondrai pas.
Vous ne me répondrez pas par pudeur?
Déjà, oui, puis je ne vous répondrai pas du tout. Voilà. Vous déjà répondu à place.
Il ne répondra pas. Une histoire sentimentale est disponible chez Albin Michel. François Baron est notre invité jusqu'à 18h.
Europe 1.
À suivre, l'expertise internationale de Sophie Larmoyer qui va nous faire découvrir des archives d'Europe 1 exceptionnelles à l'occasion des 30 ans de la chute du mur de Berlin. Sophie, qui vous en doutez, François, à ses débuts, a dû faire face au machisme qui régnait aussi dans la rédaction d'Europe 1. Une jeune femme qui voulait parler de géopolitique à l'antenne à l'époque, ça surprenait.
Ravi d'avoir une secrétaire aussi jolie.
Je ne suis pas votre secrétaire. Et l'idée est que nous travaillions ensemble, d'égal à égal.
On en reparlera quand il faudra porter quelque chose de lourd.
Ah, sacré Jean-Pierre Elkabbach. À tout de suite.
Oh non.
16h, 18h sur Europe 1, l'équipe est sauvage. Mathieu Noël.
Vous écoutez Europe 1, l'équipe est sauvage continue. 2 heures pour entretenir vos zygomatiques sans pour autant mettre vos cerveaux en veille. Les journalistes défilent au micro, vous votez pour votre sujet préféré. À l'issue de l'émission, un seul sera élu chroniqueur du jour sous l'œil attentif d'un invité d'honneur qui se passionne généralement pour cette compétition, comme Jamy Gourmaud hier.
Alors là, je m'en fous royalement.
Lui, il s'en fout tout autant, mais étant un homme politique, il a mieux appris à faire semblant. Le président des maires de France, François Baroin, nous accompagne cet après-midi à l'occasion de la sortie de son livre « Une histoire sentimentale » chez Albin Michel, ou comment les petites histoires de France ont fait la grande. On continue d'en parler, mais voici notre troisième journaliste en compétition aujourd'hui. Il s'agit de Sophie Larmoyer. Vous présentez les Carnets du Monde chaque dimanche de 13h à 14h sur Europe 1. Et c'est une semaine particulière pour notre station, puisqu'à l'occasion des 30 ans de la chute du mur de Berlin, chaque jour à 19h30 jusqu'à vendredi, nos auditeurs vont découvrir une archive étonnante de la guerre froide. Alors j'avais moi-même en montant stupéfait les auditeurs en leur dévoilant les archives inédites des derniers moments de Hitler dans le bunker.
On va finir par distribuer des petits bonbons au cyanure à tout le monde et il y aura moins de bruit.
Maintenant, Sophie, c'est à vous de surprendre les auditeurs. Je ne sais pas si vous avez accès aux mêmes archives que moi, la même qualité de travail journalistique. Je vous laisse.
Il y en a beaucoup des archives. On en a écouté plus de 500 pour faire des choix et pour pouvoir tous les soirs effectivement proposer un documentaire sonore. Alors, vous avez des grands discours, évidemment. On pense à celui de Kennedy, par exemple, qui dit il faut qu'on aille sur la Lune, on ira sur la Lune. On fait les choses non pas parce qu'elles sont faciles, mais parce qu'elles sont difficiles. Donc, traduit par Pierre Bellemare. Donc, vous avez comme ça un discours emphatique. On découvre des personnages comme Khrouchtchev qu'on entend se balader dans Paris, en banlieue parisienne, pendant que De Gaulle et Eisenhower l'attendent pour discuter, mais lui, il a décidé de les faire poireauter et il va rencontrer les Parisiens, il va rencontrer les ouvriers dans les campagnes. Et puis, vous avez des grands événements qui sont couverts au plus près, des événements qui font l'histoire vraiment. Je pense à la répression de l'insurrection de Budapest en 1956. Gilbert Lozin est à la fenêtre de son hôtel avec des confrères et il vous raconte les chars qui tournent les tourelles, puis ça finit par tirer sur l'hôtel. C'est absolument énorme. Et puis il y a cette archive que je vous propose d'écouter par exemple aujourd'hui, c'est Julien Besançon. On est en pleine guerre du Vietnam. En 1968, il est dans la forêt avec les troupes et les Vietcong sont pas très loin.
Il semble bien que l'unité Vietcong soit dans la forêt environ 1500 mètres devant nous. La forêt commence à brûler. On ne voit plus à 2 mètres malgré les fusées éclairantes et les balles traçantes. On ne voit plus rien. Le combat dure comme ça maintenant, depuis plusieurs heures. Il va durer toute la nuit au hasard.
Le son, Sophie Larmoyer, est exceptionnel de qualité aussi. Ça a été remasterisé, ça, ou c'était...
Alors, c'est retravaillé par un producteur d'Europe 1 qui s'appelle Sébastien Guidis.
On
qui, et évidemment, faire un documentaire sonore, c'est aussi recréer une ambiance. Mmh. Mais le bruit de la forêt que vous entendez, c'était le vrai bruit de la forêt. Alors lui, il rajoute de la musique, il rajoute une petite musique en dessous.
On s'y croit,
Et on y est, effectivement. Il y a d'autres types d'archives aussi qui sont vraiment délicieuses à découvrir parce qu'il y avait vraiment une écriture de nos prédécesseurs ici à Europe 1. Et quand vous entendez, par exemple, un Jacques Paoli qui vous raconte la libération d'un type qui avait eu la folie de soutenir le printemps de Prague et qui du coup a été interné en asile psychiatrique, qui a eu des barbituriques et des tranquillisants pendant 2 ans et qui est ressorti tranquillisé, barbituré, etc. Il y a vraiment une écriture qui est vraiment délicieuse à redécouvrir aussi dans ces archives et qui raconte l'histoire autrement.
Tous les jours, 19h30 sur Europe 1 cette semaine,
oui.
Donc jusqu'à vendredi. François Baroin, avant d'être journaliste à Europe 1, vous étiez un auditeur d'Europe 1 ?
Oui, j'adorais les émissions de Théno Philippaki, notamment sur la partie des années 70. Alors c'était plus eux, mais c'était des animateurs. Et moi, j'adorais le changement d'heure d'Europe. Enfin voilà, c'est en fait une culture radio, c'est une culture de rythme, de repères, au fond de petites habitudes. Et ça, ça en faisait partie. Donc Europe a vraiment bercé mon adolescence, mon enfance même.
Voilà une bonne publicité, ça c'est fait. Sophie Larmoyer, on vous remercie. Votre chronique aura-t-elle intéressé notre invité François Baroin? Réponse juste avant 18h.
Europe 1.
À suivre, comment fait-elle? Et la question vous vous posez certainement, qu'on se pose tous à l'issue de sa chronique média quotidienne, comment Eva Rock fait-elle pour regarder tous les programmes télé afin de nous en choisir un?
Tu crois vraiment que je regarde?
Ah, voilà donc l'astuce, je me disais aussi. Les conseils télé d'Eva Rock arrivent juste après un petit cadeau pour notre invité François Baroin, dont la toujours impeccable mèche rend insoupçonnable une jeunesse placée pourtant sous le signe du rock'n'roll. Étudiant, vous étiez grand fan de Bowie, je crois.
Ah oui, oui.
L'équipe est sauvage sur Europe 1. 16h-18h, Mathieu Noël.
Vous écoutez l'équipe est sauvage, 2 heures pour départager les meilleurs journalistes d'Europe 1 et apprendre à mieux connaître un invité. Aujourd'hui, c'est donc François Baroin qui nous accompagne pour la sortie de son livre « Une histoire sentimentale » chez Albin Michel. François Baroin, plus rock'n'roll qu'on ne pouvait l'imaginer, fan de Bowie, on l'a entendu. Autre information à vérifier, celle-là, j'ai lu, François Baroin, que dans votre jeunesse folle, vous faisiez des soirées avec votre ami Jean-Michel Blanquer, actuel ministre de l'Éducation nationale, et que vous passiez en boucle les divas du dancing de Philippe Catel.
Les divas du dancing.
Alors, j'adorais cette musique.
C'est le grand écart. Ben, vous étiez peut-être dans les mêmes soirées, je ne sais pas.
Mais
c'est vrai, ça?
Ouais, c'est vrai. C'est tristement vrai.
Pourquoi tristement?
Enfin, en plus, c'est pas tristement vrai parce que c'était des moments étourdissants. Oui, Jean-Michel Blanquer, ça, tout le monde le sait, on était en 7e ensemble. On est toujours très proches, on est extrêmement liés, on a tout fait ensemble et on avait monté une petite boîte de DJ, mais pas au sens moderne du terme, parce que j'aurais pas fait fuir tous vos jeunes. Hein.
C'était
voilà, de disques de jockey. Ça nous permettait de gagner un peu d'argent dans les soirées. Chic parisienne. Et à l'époque, il y avait Philippe Cataldo, effectivement, oui. Qui sortait Les Divas du Dancing, qui, de mémoire, a été écrit par Jean Schultes. Et oui. Ils avaient trouvé.
Confidence pour confidence.
Donc, il faut bien écouter les paroles, c'est pas juste le son.
Oui.
Et l'un des plaisirs. Un peu paradoxaux de mon existence de responsable public et d'une notoriété déjà affirmée, j'avais été ministre, ça a été de recevoir Philippe Cataldo qui m'a offert le super Maxi 45 dédicacé qu'il avait retrouvé je ne sais où, et comme j'en parlais à chaque fois des divas du dancing et qui passait avec la revue, il dit et donc il y a un coup de fil au secrétariat qui dit Philippe Cataldo veut vous voir, j'ai tout libéré, je le reçois dans la seconde, et donc le Maxi 45 de Philippe Cataldo est dans mon bureau à l'hôtel de l'île de Troyes. Fait partie de ces petits panels de Proust auxquels on est attaché, et merci de me l'avoir encore fait écouter.
Oh, bien sûr. D'ailleurs, mon réalisateur qui est fan de cette chanson m'a dit mais on devrait le mettre, on devrait l'écouter en entier. Malheureusement, on
mais
a
c'est
pas
sûr,
le temps.
Il est en plus extrêmement sympathique, ça a été un triomphe et c'est vraiment intéressant.
Alors, François Baroin, on l'a compris, vous avez une actualité chargée, mais est-ce que, comme la plupart des Français, vous avez encore le temps de vous disputer avec votre compagne pour savoir quel film ou quelle série regarder le soir?
Surtout pas l'envie.
C'est-à-dire pas l'envie. Ah, vous n'aimez pas les séries, vous n'aimez pas les films?
Non, je n'aime pas me disputer.
Ah, vous n'aimez pas disputer uniquement, d'accord. Ah oui, vous me rassurez, j'ai eu peur. Parce que figurez-vous que selon une étude de l'université d'Oxford, on perd tous en moyenne désormais 17 minutes chaque soir à bloquer devant l'écran d'accueil de Netflix ou toute autre plateforme de VOD à laquelle on est abonné pour choisir le programme du soir. Heureusement, il y a désormais 17 minutes de gagner. Eva Rock.
Eh bien, j'ai pas choisi une série politique, hein, je voulais vous faire sortir du bureau quand même, mais plutôt une série policière qui a estampillé Netflix et qui est très originale. Ça s'appelle Criminal, elle est composée de 12 épisodes, ou plutôt 4 fois 3 épisodes. Je m'explique. Chaque épisode est construit de la même manière. Une personne suspectée est dans une salle d'interrogatoire, elle est face à 2 enquêteurs. De l'autre côté d'une vitre teintée, le reste de l'équipe de policiers. La confrontation peut commencer. C'est donc un huis clos avec une particularité. Les parties en 3 épisodes représentent à chaque fois un pays. Vous allez avoir 3 enquêteurs côté France, Royaume-Uni, Allemagne et Espagne. La mise en scène est théâtrale, interprétation parfaite pour tous les épisodes. Et puis une sensation d'immersion qui captive et fascine le téléspectateur. L'enjeu de la série, c'est de prouver que le dénouement d'une affaire peut se jouer dans les premières heures d'une garde à vue. Moi, je préfère le Royaume-Uni, si on devait choisir un des 4 pays de production. Mais voilà, à vous de juger. 4 fois 3 épisodes. Exactement, puisque c'est une histoire par épisode.
Et bien voilà, 17 minutes de gagné. Merci Eva Rock. À suivre, Alain Siroux, qui n'est pas la moitié d'un opportuniste, va entrer en piste avec un sujet taillé sur mesure pour séduire notre invité François Baroin, président de l'Association des maires de France. Je le rappelle, les maires vont-ils sauver la nuit? En effet, en décidant d'éteindre leur ville ou leur village, les maires ont le pouvoir de sauver la faune et la flore. Alain, vous allez nous expliquer, puis on fêtera votre victoire dans la foulée.
À la queue-leu-leu.
À la queue-leu-leu, je ne sais pas, notre invité est quand même présidentiel, mais on essaiera de marquer le coup, oui.
16h, 18h sur Europe 1, l'équipe est sauvage.
Mathieu Noël.
Vous écoutez Europe 1, l'équipe est sauvage, la folle compétition opposant les meilleurs journalistes de la station continue en présence de celui qui n'est peut-être pas candidat pour 2022, mais qui, entre un livre qui réhabilite la France des terroirs, un retour dans les instances dirigeantes de LR et un sondage IFOP qui le place en tête des présidentielles de droite, a quand même toutes les cartes en main pour. Il manquerait plus qu'on ressorte une archive démontrant à quel point il peut être cool, et ça serait presque dans la poche.
Je suis le fils de Jafar.
Ça, alors, je suis le Dark Vador, le grand cador du maniement de Mike Vador, adapter ma technique à la manière du canon. Sans pitié pour mater la rébellion.
Non, j'étais plus François Baroin passe l'après-midi sur Europe 1 pour la sortie de son livre Une histoire sentimentale publiée chez Albin Michel. On continue d'en parler.
C'était pour une émission sur Europe 1.
Évidemment, ouais. C'était ici. Mais tout se passe sur Europe 1, François Baroin. Les grands moments de notre
Écoutez
société,
le monde
c'est ici.
Changer.
Exactement. Bien, elle regarde notre nouveau slogan. Eva, vous êtes vraiment corporate. On continue de parler de ce livre juste après la chronique de notre dernier journaliste en compétition aujourd'hui, le toujours passionnant Alain Sirou, qui d'ailleurs adore les livres d'hommes politiques. Pas vrai, Alain?
C'est un peu comme les cèpes dans la forêt, vous savez, vous en trouvez un, il y en a partout.
Oui, alors c'est dommage de se tirer une balle dans le pied juste avant votre chronique. Heureusement, le sujet devrait plaire à François Baroin.
Oui, vous n'êtes pas encore parlé des villages, de nos villages,
allez-y.
Je crois. Non, je voulais vous parler d'un problème global et d'une solution locale. Le problème global, c'est la victoire de la fée électricité dans le monde. Les villes sont éclairées en permanence. Et puis dans tous les villages aujourd'hui, vous avez effectivement le monument aux morts, vous avez l'église, vous avez des lampadaires, vous avez 10 millions de lampes installées qui nous empêche de voir le ciel.
Mais ça sert à quoi de voir le ciel, hein?
Alors, bien sûr, d'abord, c'est un problème d'astronome amateur, c'est-à-dire regarder le ciel pour le plaisir, mais pas seulement. Et très vite, on a découvert que regarder le ciel, c'était aussi regarder, écouter ceux qui y vivent dans cette nuit, c'est-à-dire les oiseaux, c'est-à-dire la faune locale. Et finalement, la nuit, comme disait Victor Hugo, c'est l'autre côté du monde. C'est ce qui fait qu'on a pu se mettre autour de feu, d'écouter des contes, des légendes, de voir des ombres, de construire une identité qui est une identité liée finalement à l'alternance du jour et de la nuit. Les églises, elles sonnent quoi? Elles sonnent la différence entre le jour, la nuit, la tombée du jour, le lever de la nuit, etc. Et cette instruction-là, finalement, on l'a perdue parce que l'éclairage artificiel a éteint la nuit.
Oh, c'est une belle formule, ça.
C'est une belle formule. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir que finalement, en France, on a plus de 30 000 équipes municipales qui décident, au bout du compte, de gérer l'éclairage des rues, des places.
Ah, ça, c'est intéressant. C'est les maires qui décident.
C'est les maires qui décident.
L'heure de.
Et l'Agence de l'environnement a repéré que 30 à 50% des installations électriques sont obsolètes. C'est-à-dire que, économiquement, c'est pas intéressant. On perd en plus de l'argent.
Ah oui, alors si on perd de l'argent, d'où il faut changer.
D'où l'idée que. Finalement, on pourrait peut-être faire autrement. Et ça, c'est extraordinaire. C'est-à-dire qu'on voit depuis quelques années, dans les villages, les maires, mais pas seulement les villages, aussi, je dirais, les groupements de villages dans les parcs naturels en particulier, on commence à construire ce qu'on appelle des trames noires.
Qu'est-ce que c'est que ça?
C'est-à-dire
que
ce sont des endroits où, finalement, on respecte la nuit en éteignant plus tôt. Pas besoin d'éclairer de 2h à 5h du matin. Où on met des caches sur les lampadaires, où on a des actions finalement qui sont extrêmement simples. On baisse l'intensité des lampes, etc. Et petit à petit, on commence à découvrir d'abord qu'on fait des économies d'énergie. Ensuite, qu'il y a une vraie vie la nuit. On peut faire de l'écotourisme et on peut finalement installer des endroits qui sont des petites fermes, des endroits qui sont... On attire le touriste et on lui montre le ciel, on lui fait écouter le brame des cerfs, on va se promener dans la forêt. On a quelque chose qui fait qu'on découvre la nuit comme une particularité locale. Et puis ensuite, effectivement, on commence à, se souder et raconter ces histoires de jour et de nuit. Donc il y a quelque chose qui est en train de se transformer. Et cette transformation-là, elle commence à prendre de l'ampleur, puisqu'aujourd'hui, on peut parler du parc national des Cévennes, du Perche, du Mercantour, du parc des Landes de Gascogne, des Mille Vaches, etc., qui sont en train de s'organiser pour... Alors, c'est préserver, bien sûr, la nuit, la biodiversité, mais c'est plus que ça, c'est créer des trames noires.
Il y a une autre menace, j'y pense, qui pèse sur nos campagnes, c'est ces gens qui achètent des maisons de campagne et qui demandent à ce qu'on arrête de faire sonner la cloche du clocher, que ça les dérange, ou les cloches des vaches, enfin, c'est incroyable ça.
De la même façon, ils éclairent les jardins.
De museler les coqs.
De museler les coqs, oui, bien sûr.
Les cigales aussi.
Il
y a une plainte d'habitants de ville qui sont allés à Aix-en-Provence et qui ont saisi le maire sur le thème, il faut quand même
il faut museler
des insecticides, ces bestioles qui font du bruit pendant que je dors.
On en est là, on en est là. On parle des villages, on parle des maires, vous en parlez beaucoup dans votre livre, François Baroin, Une histoire sentimentale chez Albin Michel. Beaucoup de maires ont démissionné, beaucoup hésitent à se représenter en 2020, vous dites page 247. Aujourd'hui, le nombre de menaces, d'insultes et d'agressions physiques envers les élus augmente, l'autorité est contestée, les maires sont en danger. Est-ce qu'il y a une crise des vocations ?
Sûrement, et sûrement, il y a un taux de retrait de l'engagement pour les prochaines municipales qui est évidemment beaucoup plus élevé que la moyenne. Alors, il faudra voir à la fin, parce qu'on en parle beaucoup, donc ça fait quand même réfléchir, mais on risque d'avoir pas mal de communes, effectivement, sans maire, sans élu. On a eu un nombre, entre 2014 et 2020, de démissions d'adjoints et de conseillers municipaux comme jamais. Et ça a été le mandat le plus difficile, le plus exigeant. Pas uniquement parce qu'on est dans une société de communication, les réseaux sociaux, c'est une source d'information formidable, mais c'est également une source de libération de paroles violentes. Et le maire, il porte ça. Et le maire, c'est un peu un policier sans gilet pare-balles. Il est seul, souvent, dans sa petite commune, et il est énormément plein de bonne volonté avec ses équipes. Il y a eu un décès tragique cet été, et ça fait réfléchir beaucoup de monde. Je voudrais juste revenir là sur l'éclairage public. C'est, tout ce qui a été dit est extrêmement vrai. C'est une source d'économie depuis de nombreuses années. C'est une source naturellement d'ambiance. L'éclairage public, c'est aussi un élément de sécurité. Donc on ne peut pas le faire partout.
Sur la route, oui. Notamment.
Sur la route, mais même dans les rues.
Et voilà, on a démontré aussi que les voleurs avaient peur du noir. Donc ce qui prouve que finalement, je dirais, l'éclairage, ce n'est pas la condition sine qua non. C'est nécessaire. Mais je dirais... C'est comme sur les routes, finalement. On a éteint certaines routes pour faire des tests. Il n'y a pas plus d'accidents. Peut-être même qu'on est plus vigilant quand il fait noir.
C'est sûr. Voilà, sauf pour rentrer chez soi. Alors voilà, donc il y a, je pense, pour le coup, il y a des politiques de ville et des politiques des champs. Mais ce que vous avez évoqué est très juste. Et on essaye de le généraliser un peu plus en zone urbaine.
Aujourd'hui, il y a aussi un haro sur la bagnole. Est-ce que vous, François Baroin, vous pensez que la voiture, c'est toujours quand même l'avenir, notamment en province ? C'est vrai que dans les grandes villes, on s'agite souvent sur le thème « la voiture, c'est fini, oublions ça », mais en province, ça reste quand même un moyen efficace.
Le livre est un peu fait pour ça. C'est-à-dire que de décréter de Paris le même mode de vie pour tout le monde, c'est la grande erreur, c'est même la faute. Il y a même des sujets qui relèvent soit du folklore, soit de la tradition, où les gens ne supportent pas l'idée même que Paris puisse décider pour
notamment
eux.
Notamment la corrida, par exemple.
La corrida, ou d'autres sujets, puisqu'on est à l'approche des fêtes de Noël, les crèches, il y a une dimension cultuelle, culturelle. Vous n'avez pas la même approche selon le territoire. C'est ça la grande erreur, c'est ça la grande faute. Donc traiter la question de la voiture exclusivement par le prisme de la vie dans une métropole parisienne où, à l'évidence, on va vers moins de voitures et donc probablement une qualité de vie un peu plus agréable, n'est pas de la même nature que ce que vous pouvez avoir, par exemple, à Troyes ou dans des départements où la densité d'habitants au kilomètre carré est encore plus faible.
Merci Alain Siroux pour votre chronique qui aura certainement séduit notre invité François Baroin puisqu'elle portait sur les maires. Il publie Une histoire sentimentale chez Albin Michel. François Baroin passe l'après-midi sur Europe.
Europe 1.
À suivre, c'est un journaliste extrêmement politisé qui nous rejoint, presque un éditorialiste. Comme Albert Londres, avant lui, il n'hésite pas à porter la plume dans la plaie. Et comme Albert Londres, ses indignations concernent toujours des sujets forts.
C'est vrai que les gens qui viennent vous piquer dans votre assiette des trucs que vous avez commandés, c'est insupportable. Les gens qui viennent vous piquer vos frites, moi je déteste ça.
Olivier Pouls décrochera-t-il le Pulitzer ? Pas sûr. En revanche, il vous propose chaque jour une recette de dernière minute pour épater vos proches. Délice in extremis arrive.
L'équipe est sauvage sur Europe 1. 16h-18h, Mathieu Noël.
Vous écoutez Europe 1, l'équipe est sauvage continue 2 heures pour booster votre culture G tout en assouvissant vos penchants les plus sadiques, en notant les journalistes d'Europe 1 qui ne pouvaient pas échapper plus longtemps à l'ubérisation de notre société. Mais l'équipe est sauvage, c'est également le choix gagnant pour toutes les personnalités souhaitant faire la promo de leur livre. Ils savent qu'ici, la promo, on maîtrise, car même si c'est de la radio, l'animateur aguerri que je suis n'oublie jamais de présenter le livre à la caméra. Aujourd'hui, c'est Maxime Chatham qui nous accompagne. Il publie un roman Insecte chez Albin Michel. Qu'est-ce qu'il y a, Eva Rock ?
Vous montrez le livre à l'envers.
Ça va, Eva, ça arrive au meilleur. Aujourd'hui, pour François Baroin, notez que je tiens le livre à l'endroit. Je m'améliore jour après jour. Il s'intitule Une histoire sentimentale chez Albin Michel. Il faut recoudre le lien entre la République et les territoires, dites-vous. Aujourd'hui, il est décousu à ce point-là.
Ah oui, oui. Oui, oui. Vous avez la moitié des Français qui vivent dans des communes de moins de 10 000. Vous avez 35% des Français qui vivent dans des communes de 2 500 habitants. Et vous avez un éloignement des problèmes de mobilité, une dégradation des routes. On a parlé de l'éclairage public, évidemment l'accès au numérique. Et donc, il y a une... Avant, c'était Paris et le désert français. Aujourd'hui, c'est Paris, 5-6 métropoles, dont on a besoin par ailleurs. Il faut des grandes zones urbaines, mais qui sont des aspirateurs à talent, à énergie, à force vive, qui est une vraie, vraie question de vie en commun dans un pays structuré comme le nôtre.
Le 19 novembre, il va y avoir le congrès des maires de France. Vous allez accueillir le chef de l'État. Qu'est-ce que vous allez dire à Emmanuel Macron? Vous savez déjà par quoi vous allez attaquer?
Alors, moi, je le sais déjà. Lui, le sait déjà aussi, parce que ça fait quand même deux années que...
Il ne sera pas surpris.
Non, il ne sera pas surpris. Ça va mieux hein, depuis un an et depuis les Gilets jaunes. Mais ça reste compliqué parce qu'on a des désaccords de fond. Par exemple, la taxe d'habitation... C'est tellement facile quand on est l'État, et c'est un ministre du budget qui vous parle et qui en a fait des vertes et des pas mûres également dans une période compliquée. Mais c'est tellement facile de faire le bonheur des uns en piquant l'argent des autres. Voilà. Les communes, et c'est ça que l'État a du mal à comprendre, ce n'est pas des filiales de l'État. On n'est pas des agents du gouvernement, on n'est pas des fonctionnaires de l'État. On est dans une république décentralisée, il y a une liberté, on est élu, on a un mandat, on est des chefs d'entreprise, on est des animateurs de territoire. Et au fond, on parle d'égal à égal, non pas dans l'incarnation de la République, mais dans le partage que nous avons de la responsabilité de la tenue de la République. Et c'est un peu ce type de message que je porterai auprès du Président.
Dans le livre, vous évoquez aussi le problème de l'école. Vous dites que les écoles rurales sont en danger. Pas moins de 150 d'entre elles ont disparu à la rentrée 2019. Maintenant, l'enjeu n'est donc plus pour les petites communes d'avoir une école, mais plutôt d'arriver à la maintenir.
Oui, enfin, l'école... Et classes, parce qu'on peut très bien fixer comme postulat, je ne fermerai pas une école, mais on peut fermer des classes. Puis après, quand vous n'avez plus de classes, vous n'avez plus d'école. Même chose pour les hôpitaux. On peut dire, je ne fermerai pas un hôpital, mais je vais fermer un service. Alors après, est-ce qu'on peut être bon partout? Moi, je crois que c'est des choix. Et c'est là où la décentralisation vient au cœur du débat. La santé publique, les départements peuvent très bien avoir les moyens financiers aujourd'hui de se dire, je vais investir, je vais salarier des médecins, je vais les mettre à la disposition des EHPAD, je vais les mettre à la disposition de la population. Il faut changer de culture. Voilà, c'est une petite révolution.
On connaît votre amitié avec Jean-Michel Blanquer, l'actuel ministre de l'Éducation nationale. Est-ce qu'il vous arrive de lui envoyer des textos pour lui dire « Là, Jean-Mi, tu déconnes, là, il faudrait faire ci, là, il faudrait faire ça » ou lui donner en tout cas votre avis sur tel ou tel sujet?
On a évoqué, parce que vous avez favorisé l'éditeur d'Europe 1 d'une confidence sur nos activités. Ça va peut-être vous faire sourire, mais sur presque plus de 35 ans de vie commune avec Jean-Michel, on a très très peu parlé politique.
Et c'est impossible, dans les dîners, vous parlez bien.
Évidemment, c'est impossible, mais très très peu. On s'amuse tellement sur d'autres choses. On a tous nos souvenirs de gosses, d'adolescents, de jeunes adultes.
Vous vous êtes jamais engueulé?
On s'est jamais engueulé. Alors ça, on s'est jamais engueulé, et encore moins pour la politique, si j'ose dire.
J'ai lu sur Wikipédia, et comme Wikipédia, il y a parfois des petites erreurs, que vous n'étiez pas un très bon élève en primaire. Alors ça, c'est, il y a beaucoup de gens qui raccompagnent, qui vont chercher leurs enfants à l'école à l'heure où nous sommes à l'antenne, et c'est, j'ai envie de les rassurer. Est-ce que c'est vrai qu'on peut devenir ministre de l'économie en ayant été un élève moyen, en tout cas au niveau du primaire?
Oui, bien sûr. Alors, moi, j'arrivais de province et je suis rentré dans un grand collège sur l'installation de mes parents et ça a été un vrai choc. Donc, la première arrivée au primaire était difficile. Après, j'étais un élève moyen. J'avais tellement d'autres centres d'intérêt. J'adorais la nature, me promener, la musique, les copains. Voilà. Et puis ensuite, après, il y a des événements de vie qui fait qu'il y a une bascule et puis vous vous mettez à bosser et puis essayez d'être sérieux. Voilà. Donc, ce n'est pas l'exemple à suivre.
Non, mais ce n'est jamais
mais
perdu.
C'est pas, ça, c'est jamais perdu, ça, c'est sûr. Mais jamais perdu. Mais avec une ligne droite que j'ai appris au collège, c'est qu'on apprend toute sa vie. Et donc, le jeu, c'est quand même d'essayer d'apprendre toute sa vie tous les jours.
Il faut rester curieux. Ça pourrait être aussi le slogan de notre émission. L'équipe est sauvage. 2 heures pour étancher votre légitime soif de bonne humeur, nourrir votre cerveau, mais aussi combler votre estomac exigeant. Chaque jour, alors que vous avez totalement oublié de passer faire les courses, un sauveur surgit. Il s'appelle Olivier Pouls. Et méfiez-vous, François Baroin, si d'aventure vous vous présentiez en 2022, vous risquez de trouver sur votre chemin un concurrent de taille dont la première allocution présidentielle fera date.
Vive la France, vive la République, vive le lièvre à la royale.
Étonnant programme, mais pourquoi pas, ça peut fédérer. Bonjour Olivier Pouls.
Je pense pouvoir faire des voix avec cette
Oui, c'est possible. Mais il faudrait déjà avoir la nationalité française. Vous êtes belge, non?
Oui, exactement. Oui, c'est pas le plus ridicule de tous les programmes que j'ai entendus.
C'est vrai. Cet après-midi, en l'honneur du maire de Troyes, vous nous proposez évidemment une andouillette.
Vous aimez l'andouillette,
ah bah
François
Baroin. Oui, bien sûr.
Il est un peu obligé en même temps.
Oui, non, j'adore ça.
En plus, j'adore
ses administrés.
J'en ai trop pris, vous savez qu'il y a combat entre l'authentique, la véritable andouillette de Troyes, pur porc, et puis l'andouillette lyonnaise qui, elle, intègre du veau.
Éclairez-nous sur ce
Alors,
combat.
Alors, nous, on ne connaît que l'andouillette de Troyes.
Ah, voilà.
Pour que ce soit bien clair entre nous dès le départ.
Et est-ce que vous connaissez cette légende de 1590? Les soldats de la royauté seraient rentrés dans la ville de Troyes pour la reconquérir au duc de Guise. Ils se sont emparés de la ville. Ils sont arrivés dans le quartier des charcutiers. Et là, happés par l'odeur, ils auraient laissé leurs armes, ils se seraient barrés d'andouillettes. Et bien évidemment, le camp d'en face, voyant ça, leur est tombé dessus, les a massacrés et a gardé la ville de Troyes.
Mais surtout qu'une bonne andouillette, en général, Si on a le temps de faire une sieste derrière, c'est super.
Parce que combattre les armes à la main après un festin d'andouillette, c'est évidemment un peu compliqué.
Vous nous apprenez aujourd'hui comment faire une andouillette ou...
c'est hyper facile de faire une andouillette. On l'achète évidemment chez son charcutier, on va la faire soi-même, très très compliqué. On la cuit tout d'abord très doucement dans une poêle avec un petit peu de matière grasse. Le tout, c'est de ne pas la chauffer trop fort pour ne pas qu'elle éclate. Donc c'est vraiment, on la fait revenir délicatement, délicatement. Un petit trait de vin blanc. De la moutarde, bien évidemment, deux belles cuillères de moutarde et puis de la crème. Et on laisse réduire ça pendant 10 minutes, un quart d'heure, le temps que l'andouillette soit bien cuite au centre et que la sauce est légèrement réduite et qu'elle soit nappante. Et puis comme c'est mercredi, on va l'accompagner d'une salade verte. On aurait été vendredi, je vous aurais dit, faites des pommes de terre.
Quel lien avec le mercredi, Olivier?
Au milieu de semaine, on fait encore un peu attention, on se lâche pas complètement.
Vous faire attention, vous foutez vraiment de la gueule des auditeurs, hein, moi qui vous connais un peu dans la vie. Merci Olivier Pouls, qu'on retrouve tous les samedis dans la table des bons vivants de Laurent Mariotte à 11h sur Europe 1.
Europe 1.
Il publie Une histoire sentimentale chez Albin Michel. François Baran reste avec nous pour la grande finale de l'Équipée Sauvage. Dans quelques instants, le couperet va tomber pour 3 de nos 4 journalistes en compétition aujourd'hui. Un seul sera élu chroniqueur du jour, sous l'œil intraitable de François Baran.
Elle est difficile, elle est incroyable cette élection. Vous avez des figures qui tombent comme des quilles sur une piste de bowling.
Qui tombera comme une quille sur une piste de bowling? Restez avec nous.
L'Équipée Sauvage sur Europe 1. 16h, 18h, Mathieu Noël.
Notre invité François Baroin n'a pas été ému comme ça depuis sa première élection. Oui, nous y sommes. Parmi nos 4 journalistes en compétition aujourd'hui, Annie Semmida, Nicolas Carreau, Alain Sirou et Sophie Larmoyer, nous allons savoir qui a été désigné chroniqueur du jour. François Baroin, comment vous avez trouvé l'émission?
Une embarcation où il n'y a plus de moteur.
Oui, non, mais oui, non, mais non, non, mais dit, non, ça suffit. Oui, c'est une triste. Bon, François Baroin, merci. Eva, dévoilons d'abord le choix de nos auditeurs.
Eh bien, à 31%, ils ont choisi Nicolas Carreau et l'art de la répartie.
Pourquoi vous le dites avec ce ton des...
De quoi?
Comme si vous aviez enterré votre grand-mère. Enfin, c'est une bonne nouvelle pour Nicolas Carreau.
Ouais, Nico Carreau, voilà. Vous avez gagné 2 points grâce aux auditeurs.
Un peu d'enthousiasme, Eva. Nous sommes sur la FM. Nicolas Carreau, 2 points des auditeurs. Pour ma part, à qui vais-je attribuer mon petit point? J'ai un tout petit point à attribuer. J'hésite. Mais je crois que je vais le donner à Sophie Larmoyer.
Yes.
Oh oui, un petit point pour Sophie Larmoyer. Et maintenant, vous le savez, dans l'émission, le dernier mot revient toujours à notre invité d'honneur, François Baroin. Attention, vous avez entre vos mains la carrière de 4 journalistes qui, selon vous, méritent d'être élus chroniqueurs du jour.
Tous, mais il faut qu'il y en ait un qui sorte du lot.
Et oui.
Alors, j'ai bien aimé l'histoire d'Anissé, là, sur...
Oui, ça vous a fait marrer, ça.
Ah, ça m'a bien fait rire, mais je trouve ça meilleur, on va travailler là-dessus. Hein. C'est vraiment un programme d'alternance, à mon avis, qui se décide.
On rappelle, c'est travailler moins pour gagner plus. Ouais. C'était ça,
non,
l'idée.
C'est pour avoir du temps pour faire des enfants. Ah, c'est ça, c'est ce concept-là, je ne veux pas m'éloigner de cette idée. Je veux du temps pour faire des enfants. Nicolas Carreau, j'ai adoré, c'est de la répartie, c'est formidable. Mais du coup, ça faisait un peu des formations professionnelles. J'étais venu pour me changer les idées.
Tant pis pour vous, Nicolas.
Sophie, que j'adore malgré son nom. Et que je connais depuis toujours. J'aurais adoré qu'elle ressorte Paoli ou d'autres archives, André Arnaud.
Demain
soir, donc j'écouterai.
19h30.
Mais du coup, je vais donner mes points à Alain Sirou parce que il a été un très bon flatteur du rôle de la page.
Et
en politique, on est très sensible à la flatterie. Alors du coup, je lui envoie tous mes points. C'est lui qui gagne.
Bien évidemment, les 3 points pour Alain Sirou qui remporte la 52e journée de l'Équipée Sauvage. On remercie notre invité François Baroin d'avoir joué le jeu. Son livre s'intitule Une histoire sentimentale. Il est disponible chez Albin Michel. Merci encore François Baroin d'avoir
merci
été avec
vous
cet après-midi. Merci également à mes journalistes Eva Rock, Sophie Larmoyer, Annie Sembida, Nicolas Carreau, Alain Sirou. L'Équipée Sauvage revient demain 16h.